Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Cette histoire commence le lundi de Pentecôte 1828 devant une taverne de Nuremberg, en Allemagne. Il est 4 heures de l'après-midi et deux cordonniers sortent d'une taverne. Le premier s'appelle Weichmann et le second Beck. Et voilà pas que rue de la Fosse aux Ours, il tombe sur un drôle de garçon. Ah ça oui, un drôle de garçon. Il doit avoir dans les 16 ans et il ne parle pas, il grogne. On dirait une bête, mais alors une bête bien habillée, parce que ça, on peut rien dire. Il a une veste et un gilet, une culotte courte, des demi-bottes et un foulard noué autour du cou. Tanqués au milieu de la rue, Beck et Weissmann se perdent en conjectures. « Mais d'où qui sort celui-là ? » dit Beck. « Bah, il ressemble bien à un être cocher, » dit Weichmann. « Moi, je dirais plutôt un garçon tailleur. » Et voilà que l'animal les apostrophe. Il parle le dialecte bavarois. « Hé, ouais ! Hé, les gars !» Il est bien familier, ce gamin. C'est que Weichmann est un cordonnier reconnu en ville. Et Beck est carrément maître bottier. Il n'est pas très bien élevé, ce gamin. Et maintenant, voilà le garçon qui leur dit « Rue de la Porte Neuve ! Rue de la Porte Neuve !» Il dit ça sans formuler de phrase. Juste « Rue de la Porte Neuve ! Rue de la Porte Neuve !» Il veut y aller ? Il en vient ? Il se passe quelque chose là-bas ? Weichmann est intrigué et il décide de l'y conduire. C'est pas loin. Et en marchant, il lui demande « Mais d'où tu viens, toi ?»« De Ratisbonne. » Ah, Ratisbonne, il connaît, c'est pas très loin de Nuremberg, c'est dans les 90 kilomètres. Et voilà qu'au beau milieu de la rue, le gamin sort une grande enveloppe de sa poche. Dessus, il est écrit « À monsieur le capitaine du 4e escadron ». Le capitaine du 4e escadron, connais pas. Mais si tu veux, gamin, quand on sera à la Porte Neuve, je te montrerai le poste de garde. Ils sauront, eux, où qu'il est le capitaine du 4e escadron. Mais t'es déjà venu à Nuremberg ? Ah non, non, première fois. Weichmann tente alors une question plus complexe. Il lui demande « Quoi de neuf, à Ratisbonne ? Qu'est-ce qu'on pense là-bas de la guerre et de la paix ?» Le garçon répond « Guerre, guerre. » Il n'a manifestement rien compris à la question. Mais les voilà à la rue Porte-Neuve, et tiens, voilà le poste de garde. D'entrée, le garçon se montre d'une politesse exemplaire avec les militaires. Il n'a qu'une seule idée, sa lettre adressée au capitaine du 4e escadron. En face de lui, il a un caporal qui, oui, oui, bien sûr, connaît ce capitaine, le capitaine von Weissening. « Vous n'aurez pas de mal à le trouver, mon garçon. Le capitaine habite la rue de la Porte-Neuve, juste là. » Il est 7 heures du soir quand le garçon sonne à la porte du capitaine. C'est un domestique, Jean-Mathias, qui lui ouvre. Le capitaine, il n'est pas là. Mais en voyant l'enveloppe à son nom, le domestique le fait entrer. Et là, le garçon de lui dire tout de go « Je vais être cavalier, comme mon père !» Jean-Mathias le trouve bizarre et l'installe dans les écuries. Il a l'air ravi d'être avec les chevaux. Il se met à les caresser et à coller sa joue contre leur pelage. Et ensuite, voilà qu'il se couche dans la paille. Jean-Mathias comprend que le gosse est épuisé. Alors il lui apporte un repas. De la bière, de la viande, du pain et de l'eau. Il se jette sur le pain et sur l'eau, mais il délaisse la viande et la bière. Et il s'endort. Le capitaine von Weissening arrive une heure plus tard et trouve le garçon endormi sur la paille de son écurie. Quand il le réveille, l'autre, apercevant un uniforme, se met à crier « Je voudrais bien être comme ça, moi ! Je veux être comme ça !» Et ensuite, il lui remet l'enveloppe. Le capitaine l'ouvre. Elle contient deux lettres. La première, en lettres gothiques et bourrée de fautes d'orthographe, lui est adressée. « Très honoré, monsieur le capitaine, je vous envoie un garçon qui voudrait servir fidèlement son roi et qui l'a demandé. Ce garçon m'a été confié en 1812 et je suis moi-même un pauvre journalier. J'ai moi-même 10 enfants et assez de peine à me tirer d'affaire et la mère m'a confié l'enfant pour son éducation. Mais je n'ai pas pu la questionner et je n'ai pas dit au tribunal que le garçon m'avait été remis. J'ai pensé que je devais le traiter comme mon fils, je l'ai élevé chrétiennement et depuis 1812, je ne l'ai pas laissé faire pas hors de la maison. Ainsi, aucun homme ne sait où il a été élevé et lui-même ne sait pas comment s'appelle ma maison et l'endroit, il ne le sait pas non plus. Vous pouvez toujours le lui demander, il ne peut pas le dire. Je lui ai déjà appris à lire et à écrire et il peut écrire mon écriture comme moi et quand nous lui demandons ce qu'il veut devenir, alors il dit qu'il veut être un chevau léger. Je me recommande avec obéissance, je ne me fais pas connaître mon nom car je pourrais être puni. Il n'a pas un centime sur lui et comme je n'ai rien moi-même, si vous ne le gardez pas, vous pouvez le dresser ou le pendre à la cheminée. Le capitaine est bien embêté. Il n'a aucune envie de s'embarrasser de ce garçon, pas plus d'ailleurs que de le pendre à la cheminée. Il manquerait plus qu'on dise que c'est son fils, coureur de jupons comme il est, ça n'étonnera personne qu'il ait un fils caché. Voyons ce qui est écrit sur la deuxième lettre. Ah ! Oh, elle est beaucoup plus courte. Et cette fois, elle est écrite en lettres latines, sans la moindre ponctuation. Mon Dieu, c'est la lettre de sa mère, une lettre qui remonte au jour où elle l'a abandonné. L'enfant est déjà baptisé, il s'appelle Caspar. Un nom de famille, vous le lui donnerez vous-même, si vous l'élevez. Son père a été un chevau léger. Quand il aura 17 ans, envoyez-le à Nuremberg au 6e régiment de chevaux légers, là aussi son père a été. Je vous prie de l'élever jusqu'à 17 ans. Il est né le 30 avril de l'année 1812. Je suis une pauvre fille. Je ne puis pas nourrir l'enfant. Son père est mort. Donc il s'appelle Gaspard. Et son histoire est bien étrange. Il aurait été élevé pendant 16 ans dans la famille d'un paysan qui l'aurait en quelque sorte enfermé afin qu'il ne sache pas où il était. Et il veut maintenant en faire un cavalier comme l'était soi-disant son père. Mais à y regarder de plus près, le capitaine est encore plus intrigué. Les deux lettres, qui sont censées avoir été écrites à 16 années d'intervalle, ont été écrites avec la même encre. Ah oui, 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 c'est la même encre, c'est le même bleu, exactement. Ces lettres auraient donc été écrites en même temps. Et ce qu'elles racontent serait donc faux. C'en est assez. Le capitaine von Weissening ramène l'adolescent au poste de garde et demande qu'il soit jeté en prison. On le conduit immédiatement en cellule dans la tour de Lüginschland. Le pauvre Gaspard aurait donc passé les 16 premières années de sa vie enfermé dans une ferme de Bavière et voilà qu'il se trouve sous les verrous, jeté sur le sol crasseux d'une cellule insalubre. Son geôlier, bien sûr, cherche à en savoir plus. Il lui tend un papier et un crayon. « Écris ton nom et d'où tu viens ?» Avec une très grande application et aussi une très grande lenteur, Gaspard se met à écrire. « Caspar Hauser. » Il s'appelle Caspar Hauser. Ah ça, il y a du progrès. Il avait un nom, voilà qu'il a un prénom. « Et d'où tu viens ? Écris, bon Dieu, écris !» Gaspard lui répond qu'il ne sait pas. Et dans les jours qui suivent, il devient un sujet de conversation à Nuremberg. Et au-delà, il y a ceux qui sont persuadés qu'il est débile et ceux qui au contraire pensent qu'il est très malin et qu'il cache habilement une histoire qu'il connaît. L'affaire arrive évidemment aux oreilles du maire de Nuremberg, Jacob Frederick Binder. Le maire, c'est un magistrat et ça l'intéresse bien cette histoire. Il veut le voir, on lui amène. extraidant Gaspard de la prison de Nuremberg pour le conduire au cabinet du maire. Et une autre fois, à son domicile. Le maire est bien décidé à résoudre son énigme. Il décide de rendre public les deux lettres que l'enfant portait sur lui quand on l'a découvert. Il publie un avis à la population qui est repris par les journaux, les uns après les autres. Dans cet avis, le maire en personne fait une description de Gaspard. Taille moyenne, bien bâtie, cheveux châtain clair tirant sur le blond, visage ovale, front large et élevé, sourcils bruns, yeux gris, nez moyen assez large, bouche proportionnée, la lèvre inférieure avançant un peu, aucun signe particulier, sauf une cicatrice de vaccination au bras droit. Suit la liste des vêtements de Gaspard, ceux qu'il portait au moment de sa découverte. L'avis se termine par une description de ce que le maire imagine de ce qu'ont été les conditions de vie de l'enfant quand il vivait chez ce paysan. Une pièce sans plancher, au volet clos, où la lumière parvient difficilement, un lit fait de bottes de paille et aucun contact avec ceux qui le nourrissaient. Et ce faisant, il fantasme. En vérité, il n'a aucune idée des conditions de vie du gamin. Et on ne sait pas vraiment si les volets étaient clos et si l'enfant dormait sur une motte de paille. Mais l'idée a l'air de lui plaire. Pour lui, c'est un crime. C'est un crime de séquestration illégale. Il faut retrouver les coupables et leurs complices. Il en appelle au Bavarois pour lui donner toute information qu'il jugerait utile. Le maire se fait un peu remonter les bretelles par le gouverneur de la province d'Ansbach, qui semble penser qu'il s'est un peu laissé entraîner par son affectivité. « Ce garçon est débile, je vous dis !» Voilà ce que pense le gouverneur. « Un débile !» Mais le maire n'en a rien à faire. L'avis a été publié et c'est l'essentiel. Les auteurs de ce crime infâme savent maintenant qu'ils sont recherchés. Et ils ne doutent pas qu'ils vont être dénoncés. Quant à Gaspard, pendant ce temps-là, il reste en prison, mais son sort s'améliore. Il quitte la sordide tour de Lüginsland et se retrouve maintenant incarcéré dans une jolie chambre de l'appartement de fonction de son geôlier. Et comme prévu, l'avis à la population porte ses fruits. Un jour, le maire reçoit une lettre anonyme qui laisse entendre quelque chose d'extraordinaire. Gaspard Hauser serait un prince héritier de la famille de Bade. Un aristocrate ! Le maire n'en revient pas. Gaspard aurait du sang royal. C'est incroyable. Imagine-t-on le grand-duc de Bade abandonner un de ses rejetons ? C'est insensé. Le maire choisit de garder le secret sur cette lettre anonyme. Et pourtant, cette idée que Gaspard serait le fils du prince de Bade va devenir une rumeur qui va lentement mais sûrement remonter une à une les routes de Nuremberg, gagner les villages alentours, puis la province et bientôt le pays tout entier. Une autre rumeur dit qu'il serait le fils d'un comte très riche, mort récemment à Munich. Mais dans tous les cas, ce que dit la rumeur, c'est que Gaspard serait l'enfant caché de quelqu'un de riche et de célèbre, un enfant qu'on aurait voulu priver, d'un héritage peut-être. Mais qu'il soit de haute lignée, tout le monde en est convaincu. À voir. Ça fait maintenant 10 semaines que Gaspard Hauser est apparu à Nuremberg. 10 semaines donc qu'il est en prison. Mais son sort s'améliore de jour en jour. Non seulement il vit maintenant dans l'appartement du geôlier de la prison, mais désormais il a droit à des cours particulier. Si, si. Un professeur de Nuremberg nommé Domer vient tous les jours lui faire la leçon. Il faut dire que ce Domer est en délicatesse avec le directeur de son lycée. Il a tout le temps de s'occuper de Gaspard. Et il s'est mis dans l'idée de le faire progresser. Il se dit que cet enfant sauvage, qui a été élevé à la fourche, peut rattraper ce qu'il estime être un retard. Pas un handicap, un retard. Ce qui, pour l'époque, entre nous, est assez moderne. Et un jour, le voilà même qui le prend chez lui. Et ça arrange tout le monde. Maintenir ce pauvre gamin en captivité commençait à faire tâche. Donc il n'est plus prisonnier. Il vit chez Domer, qui reçoit même une pension pour l'héberger. Une pension du bureau de bienfaisance de Nuremberg, qui prend désormais en charge tous les frais d'entretien de Gaspard et verse à Domer une rémunération. Et ce Domer se met en tête de lui faire rencontrer la bonne société de Nuremberg, qui évidemment n'attend que ça. Un enfant sauvage, ça intéresse tout le monde. D'autant que Domer raconte à qui veut l'entendre que Gaspard est un élève stupéfiant, qui fait des progrès incroyables. Lui-même n'en revient pas. Que ce soit en lecture, en écriture, en mathématiques et même au piano, ce Gaspard Hauser est doté de capacités hors du commun. Il apprend tout très vite, en tout cas au début. Parce qu'après, ça se tasse. D'un coup, son apprentissage ralentit. Il commence à se dire qu'au début, il a fait semblant d'apprendre ce qu'il savait déjà. Il a roulé d'Homer. Et après, ben normal, il s'est mis à patiner. Et Domer, si enthousiaste les premières semaines, commence à dire qu'il a un niveau mental de 12 ans, et même, dans certaines disciplines, un niveau mental de 4 ans. Mais il ne le lâche pas. Pendant un an et demi, il s'occupe de lui à plein temps. Il prétend désormais être celui qui le connaît le mieux. Et puisqu'il cale un peu sur les apprentissages intellectuels, il se met à lui éduquer le goût. Et puis l'odorat. Et il l'observe aussi. C'est ainsi qu'il note que Gaspard a une propension à ressentir physiquement et électriquement les orages. Et que quand il se trouve face à la pleine lune, il a très froid, terriblement froid. Et puis, il se souvient des lettres qu'il portait sur lui et de son souhait de devenir cavalier. Alors, dès l'été 1928, on commence à lui enseigner l'art de monter à cheval. Et autant vous dire que ça fait des jaloux, parce que tout ça, évidemment, c'est aux frais de la ville. Il a quand même la belle vie, ce Gaspard. Cela dit, les habitants de Nuremberg sont plutôt bienveillants à son égard. Ils lui font des cadeaux, et notamment des vêtements ou des livres. Et les bourgeois de Nuremberg l'invitent carrément à leur table, comme une bête curieuse. Et ce soir-là, on minaude. Il est pas mal fait de sa personne. Oh, il est moins idiot que ce qu'on m'avait dit. Vous croyez que c'est le fils d'un prince ? Bref, le temps passe, et maintenant Gaspard est totalement installé dans le paysage de Nuremberg, intégré à cette petite communauté, jusqu'à ce moment où il se passe des choses étranges. Un jour, en octobre, au moment de passer à table, à midi, on le cherche et on ne le trouve pas. Madame Domer envoie la bonne à la cave avec une lampe à pétrole. Et soudain, on l'entend crier. « Le Gaspard ! Le Gaspard ! Il est étendu là ! Il est mort !» Il est là, en effet, qui gît sur le sol, le visage couvert de sang. Mais il n'est pas mort. Il vient de gémir. Il est vivant. Mon Dieu, merci. Il est vivant. mais il a une grande plaie sur le front qui a dû être faite avec un objet tranchant. On le remonte dans sa chambre, on le met au lit, on lui nettoie et désinfecte la plaie, et lui dit
« Mère, racontez au professeur, homme, homme frappé, homme noir !»
Un homme noir, c'est ce que raconte Madame Domer au gendarme. Il devait parler du ramoneur qu'il a vu quelques jours plus tôt dans la cuisine et qui lui a fait très peur. Le président d'Ansbach se rend à son chevet et l'autre lui dit « Ah, monsieur le président, protégez-moi, qu'on ne me tue pas. Pourquoi il ne m'a pas tué avant que je sache ce qu'est la vie m'est devenue si chère ?» À partir de ce moment, figurez-vous, on lui colle deux gardes du corps, carrément payés sur les deniers du roi Louis Ier de Bavière. Et dans la foulée, on l'installe dans une nouvelle famille, les Bilherbach, qui l'accueillent donc avec ses gardes du corps. Monsieur Bilherbach est un industriel, et c'est lui qui se met en tête d'apprendre à Gaspard à tirer au pistolet. S'il doit se défendre, il faut qu'il sache. Et un jour, Gaspard, très fier, dit à Monsieur Domer, son professeur, un peu inquiet, « Voilà, maintenant je suis capable de tuer un homme !» Sauf que 3 mois après son arrivée chez Bilherbach, un après-midi, Gaspard est dans sa chambre et les gardes du corps entendent un coup de feu. Ils trouvent Gaspard étendu sur le sol, le visage en sang, mais vivant. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Il n'en dira rien. On évoque un accident, une mauvaise manœuvre et on pense bien sûr à une tentative de suicide. Mais par-dessus tout, on conclut qu'il faut l'enlever dardard de chez Bilherbach. Quelle idée de lui avoir appris à tirer! Il est donc placé dans une nouvelle famille, chez un instituteur d'Ansbach. Et il reprend sa vie normale, faite de balades à cheval, de déjeuners en ville et de ses cours particuliers qu'il continue de suivre. Mais dans la région de Nuremberg, il commence à y avoir beaucoup de rumeurs sur son compte. De plus en plus de rumeurs. Il y a des mégères qui disent qu'il est dissimulateur et menteur et qu'il a inventé toute cette histoire pour se faire une place au soleil, aux frais bien sûr des habitants de Nuremberg. Et puis il y a ceux qui, plus nombreux sans doute, veulent absolument lui donner une lignée, et tant qu'à faire, une lignée aristocratique. C'est toujours cette idée qu'il serait un bâtard de la princesse de Bade, un petit prince en quelque sorte, un prince rejeté qu'on aurait enfermé chez des paysans pendant 16 ans et relâché dans la nature. Alors un jour, 4 ans après l'arrivée de Gaspard à Nuremberg, un homme décide d'en avoir le cœur net. Et cet homme a du pouvoir, il est chevalier de la couronne de Bavière, il s'appelle Feuerbach et il se targue d'être un peu criminaliste. Et il décide d'écrire à la reine de Bavière. Et oui, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Il veut savoir. Il n'y a pas eu de réaction officielle de la reine. Mais ce qui se dit, c'est qu'elle a averti la princesse de Bade et qu'elle l'a mise en garde et que la princesse serait venue à Ansbach discrètement pour voir Gaspard de loin. Ce que certains ont pris, bien sûr, pour une reconnaissance de maternité. Mais là, on en est revenu à la rumeur. Je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas mieux. Il me reste à vous raconter une chose sur la vie de Gaspard Hauser. Le 14 décembre 1833, Gaspard Hauser va se promener au parc de Hofgarten. Il s'enfonce dans le parc environ un quart d'heure. Quand il réapparaît quelques minutes plus tard, il est blessé à la poitrine. Il pisse le sang et il montre le jardin. Et dans un râle, il raconte une histoire incroyable. Un homme m'a donné rendez-vous là. Et puis il m'a tendu une bourse. Il m'a dit, prends cette bourse. J'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. J'ai baissé les yeux. Il m'a poignardé plusieurs fois. On appelle le médecin, qui vient très vite. La plaie est profonde et mauvaise. Un coup de couteau qui est entré entre deux côtes. Le médecin craint l'hémorragie interne. Mais Gaspard est encore en état de parler. Il décrit l'homme, sa moustache, ses favoris, sa redingote. Dans le parc, on retrouve la bourse que l'homme lui a tendue. Et vous savez ce qu'il y a à l'intérieur ? Un bout de papier, plié en quatre. Un message écrit à l'envers. Il faut donc un miroir pour le lire. Alors on va chercher un miroir et on découvre le message. Hauser pourra vous le raconter très exactement comment je suis et d'où je suis. Pour épargner la peine à Hauser, je veux vous le dire moi-même d'où je viens. Je viens de la frontière de Bavière, sur le fleuve. Je veux vous dire encore mon nom. Et là, suivent trois lettres, un M, un L et un E pris dans le haut. M-L-O-E. Bien. Bon, que dire, sinon que c'est incompréhensible. C'est à peu près à ce moment-là qu'un médecin ayant examiné la blessure de Gaspard rend son verdict. Il est formel. Ce coup de couteau, il se l'est donné lui-même. Et on rappelle qu'on n'a jamais retrouvé le coupable de la précédente attaque il y a 4 ans. Et on se remémore le coup du pistolet dans sa chambre. Et on se dit qu'il se passe décidément des choses étranges dans la vie de ce garçon. Mais c'est fini. Parce que Gaspard, il est mort. Il n'a pas survécu au coup de couteau qu'il s'est donné ou qu'on lui a donné. On ne sait pas. On ne sait rien, en fait. Rien de plus qu'il y a 5 ans. Mais des choses à raconter, ça, on en a. Cette histoire étonnante a donné naissance à plus de 300 œuvres depuis 1828. Des films, des pièces de théâtre, des romans et un poème de Verlaine, repris en chanson par Georges Moustaki.
Qu'est-ce que je fais en ce monde ? Ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard.
Sachez que dans le parc où Gaspard est censé avoir été poignardé, à Ansbach, il y a presque 190 ans, on trouve encore aujourd'hui une statue de Gaspard Hauser, accompagnée d'un petit panneau qui résume, je trouve, assez bien cette histoire. Ici, un inconnu fut assassiné par un inconnu. Pas mieux.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.